On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
L'imagination des acteurs du changement ainsi que leur engagement n'a pas de limite lorsqu'il s'agit d'inventer, de développer et d'expérimenter des alternatives durables et surtout singulières. Dans cette émission Carbone Zéro, je donne la parole à Evelyne Adam. Evelyne Adam a su développer des habitats alternatifs qu'on appelle les carters, des petits dômes en forme poétique qui sont un appel à vivre de manière radicalement proche de la nature. Evelyne a développé ce type d'habitat léger, c'est elle que je reçois dans cette émission de Carbone Zéro. Je suis en train de faire le tour de France de tout ce qui est écolieu, éco-village, habitat participatif, habitat groupé. Ça correspond aujourd'hui à une vraie demande de vivre autrement. On se rend compte que l'humain, dans sa globalité, est dans une quête de sens. Bien souvent, on s'est complètement détourné de sa réalité intérieure, de sa divinité. Et donc beaucoup de gens sont en chemin. En chemin, on parle de mouvement de transition pour remettre vraiment plus de sens au cœur de leur vie. Et le sens, ça va passer par une activité professionnelle, ça va passer par l'habitat, ça va passer par des fois la vie en collectif. Et donc c'est ce que je suis en train de faire le tour de tous ces lieux-là, donner la parole à ceux qui ont déjà entamé leur transition. Et donc là, je me retrouve dans un lieu qui est un peu unique en France, avec Evelyne Adam. On est assis dans une carter. Donc on va peut-être commencer par ça. Evelyne a donné une dimension visuelle à l'auditeur qui n'est pas là, qui n'a pas la chance de partager cet instant avec nous.
Donc la carter, c'est un habitat rond. Déjà, il faut penser à la forme de l'igloo, en fait, là, c'est la forme de base. Toutes les formes rondes sont des formes extrêmement solides. Du coup, l'idée, c'est de te faire une solidité grâce à la forme ronde. Et donc, c'est fait qu'à partir des plantes, on le sent, et à partir de la chaux. Et du coup, c'est des habitats respirants, chauds et douillets de toutes les manières, surtout avec la forme, quoi. C'est, je sais pas comment expliquer, moi je pourrais plus habiter dans du carré, voilà.
Alors ça fait penser effectivement au ventre de la mer, j'ai l'impression de revenir encore dans la matrice. Il y a quelque chose de très doux dans toutes ces formes arrondies qu'on voit tout autour de nous. Donc un habitat qui est unique et surtout qui est complètement écologique. Alors je vais peut-être revenir à l'origine, à la genèse du projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as décidé un jour de... Parle-nous un peu de ton cheminement intérieur ou extérieur. Qu'est-ce qui est fait que tu te lances dans ce type d'habitat?
Alors il y a 25 ans, quand j'ai commencé à vraiment... Je suis partie à la chasse aux habitudes. Donc je me suis dit que cette vie, il y avait plein d'habitudes qui salissaient la planète. Et du coup, j'ai pris certaines habitudes que j'ai gardées. Et puis, il y en a plein d'autres que j'ai enlevées. Donc c'était ma technique un peu de changement. Et ensuite, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème planétaire. Mais ce n'était pas l'époque où il fallait le dire. Et j'ai compris qu'il fallait être plutôt que de dire. Alors je me suis appliquée à... Chaque jour, chaque heure, chaque mouvement, chaque geste que j'ai fait, chaque réaction que j'ai fait, c'était de poser des actes, vraiment. Je crois que c'est la meilleure solution.
Ça fait vraiment penser à la citation de Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde.
Complètement, j'avais lu tous ces livres, mais il y avait tellement peu, il y avait plein de gens qui changeaient, mais très très dispatchés dans le monde. Je voyais quelques initiatives ici ou là, mais très très peu. Donc on a été plein, je pense, de précurseurs à poser des actes. Maintenant ça parle vraiment, et maintenant moi je suis hyper enthousiaste de voir le nombre de gens en transition. Il y a 25 ans, j'ai crié plein de fois à la plage, pas toute seule, quoi, parce que c'était assez assez puissant de faire ça tout seul. Mais maintenant là, je vois tellement de jeunes qui arrivent partout, je vois un mouvement génial, que je pense que je peux donner un mot simplement: ose, vas-y, quoi, c'est pas dangereux. Pour ceux qui vont démarrer, il y a beaucoup de peur encore, mais voilà, quand tu vois, toi tu as vu ici, ça fait pas peur, quoi, ça fait plutôt enthousiasmant au niveau de l'esthétique, du confort, de tout ça, c'est possible différemment qu'aujourd'hui, quoi.
Qu'est-ce que tu observes dans tous ces jeunes? Tu dis, il y a 25 ans, tu te sentais seule, aujourd'hui, il y a ce... on l'est beaucoup moins.
Parce que ça se fait parce qu'il faut que ça se fasse. On sait qu'on peut pas rester sur cette planète sans ça. Donc, Je crois qu'il y a des gens qui sont nés là dans tous les 20-30 ans, qui sont complètement prêts, pas tous, hein, mais beaucoup plus que ceux de ma génération. Et c'est une chance pour eux d'être pleins, quoi. Alors après, il y a beaucoup de bases de données à changer dans le relationnel, comme on disait. Il y a vraiment une écologie relationnelle nouvelle à trouver. Je pense qu'ici, on a trouvé pas mal de choses sur ça. C'est pour ça que ça continue tranquillement.
Alors cette écologie relationnelle, c'est un terme que j'aime beaucoup. J'entends pas mal parler dans ce Tour de France des écolieux, parce que qui dit écolieu, il dit souvent vivre ensemble, le vivre ensemble, la vie en collectif. Et on se rend compte que vivre en couple, c'est pas évident. Vivre en famille, on rajoute encore une couche avec les enfants, mais en vivre en collectif, c'est encore une troisième couche qu'on va rajouter. Et on ne sait pas forcément faire dans une société qui est quand même profondément individualiste. On n'a pas appris à être ensemble. On a appris à être meilleur que son prochain, meilleur que son voisin sur un système très hiérarchique, un système très vertical. Et là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de remettre un petit peu d'horizontalité dans nos relations humaines. Donc, je ne sais pas quel est aujourd'hui le projet. Il y en a plusieurs, hein, autour de ce lieu. Est-ce qu'il y a ce projet du vivre ensemble, le projet du collectif?
Alors justement, on a opté, nous, pour pas être ni communauté, ni d'avoir des choses ensemble, etc. Et pourtant, on est ensemble, mais d'une autre façon, quoi. Et je vois beaucoup de gens qui arrivent sur nos stages ou qui viennent ici, qui sont très désabusés de certains écolieux. On a eu espoir d'être ensemble, de faire tout en commun, etc. Et ça marche pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés d'écolieux, quoi. Et je pense qu'ici, on a opté pour rien en commun. Une idée commune de gagner une planète, comme je disais, voilà, c'est pas véritablement un écolieu et en même temps c'en est un, parce qu'on est de plus en plus large, mais on s'élargit plutôt que s'enfermer. Bon, moi, l'humain a le phénomène du troupeau. C'est-à-dire que depuis toujours, il y a le troupeau qui pense pareil, donc il y a les troupeaux religion, les troupeaux partis politiques, voilà, on avait une société qui n'était fabriquée que sur des troupeaux, et nous on a essayé d'être les brebis perdues, mais assemblées. C'est-à-dire qu'il y a des vieux textes qui disent qu'il y a la brebis perdue, et on lui donne beaucoup d'importance dans ce texte à cette brebis perdue. Et je pense que c'est pas d'être perdu, c'est d'oser sortir d'un troupeau. Mais après, on se sent seul, et là, on a fait, voilà, on est un groupe de gens assemblés sans être un troupeau. Et ça, c'est un challenge, parce que on n'est jamais d'accord, on n'a jamais les mêmes idées, mais c'est ça la richesse.
La richesse dans la diversité. Alors c'est vrai qu'il y a cette notion de, tu disais, on n'est pas vraiment un écolieu. C'est vrai qu'on aime bien mettre les gens dans des cases
Voilà, moi je
aujourd'hui,
veux
hein.
pas entrer dans cette case non
Donc
plus.
voilà, je vais pas te demander de me mettre une case, mais je vais quand même te demander de me parler du projet. Donc il y a cette dimension du vivre ensemble, mais pas d'une manière. Enfin, tu l'as très bien dit, c'est pas une communauté.
Non.
Mais dans pas mal d'écolieux, il y a pas cette notion du vivre ensemble en permanence. Chacun a vraiment son espace,
Plus en plus,
son habitat, et c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est une
C'est clair,
colocation.
c'est clair. Ouais. Alors le projet ici, c'est de faire un grand centre de recherche sur l'impact bonifiant. Parce que justement, notre seule chose commune, c'est qu'on essaye d'être bonifiant. C'est-à-dire, j'ai inventé ce mot parce qu'il n'existe pas. L'idée, c'est de, parce qu'on habite, là où on habite, on bonifie tout le lieu. Tu as vu le jardin jungle, tu as vu tous ces terrains sont bonifiés parce qu'on habite sur les terrains. Et donc toute personne qui vient chez nous vient expérimenter d'être bonifiant. Mais une fois qu'il a obtenu d'être bonifiant, ben, il achète un terrain aux alentours parce qu'il continue de participer. Donc la plupart des amis ont acheté des terrains autour. Donc ça fait qu'on sauve de plus en plus de terrains pour les bonifier. Et ça devient quelque chose de plutôt de l'ordre du village ou finalement même de la région. Mais l'idée, c'est de s'expanser plutôt que d'enfermer sur un lieu, etc. Et donc, c'est ce qu'on fait et c'est assez intéressant de voir comme plein, plein de terrains qui sont bonifiés maintenant.
Alors le concept de bonifier, une action bonifiante, moi je me rends compte parce que je suis là sur le lieu, mais j'aimerais qu'on développe un petit peu ce concept. Il y a cette notion de, effectivement, quand on fait un tour autour de toi, on voit une forêt nourricière. Il y a cette notion d'aggradation du sol. Il ne s'agit plus de le dégrader, hein, ce qui est trop largement le cas partout en France, mais c'est vraiment d'aggrader, de recréer de la matière organique, de recréer de la vie. Tu me disais, tiens, regarde, là il y a un pépin, là il y a une noisette qui a poussé. Donc voilà, ici c'est vraiment cette notion d'utiliser un sol et de voir comment on peut l'améliorer à travers les actions du quotidien.
Alors, le premier terrain que j'ai pris, c'était que du sable, c'était un ancien champ de carottes retourné. Donc, il avait perdu tous ses humusseurs. Pour moi, la richesse, c'est les humusseurs, c'est-à-dire tous ces jardiniers qui mangent le mort pour en faire du vivant. Et ensuite, l'autre richesse, c'est les graines. Parce que j'habite là, l'humus s'est refait, les humusseurs sont revenus et les graines se multiplient en grande quantité parce que j'accueille toutes les sortes de plantes. Et je pense qu'on habite sur un être vivant qui est très intelligent, qui s'appelle la planète Terre. Et elle, voilà, quand elle fait des plantes, c'est qu'elle en a besoin. Et souvent, on appelle ça des envahisseurs. Quand tu as un envahisseur, c'est que la Terre en a besoin. Alors, il faut le laisser, voire en rajouter, puisqu'elle en a besoin. Donc, moi, j'ai opté, par exemple, sur mon jardin jungle. Au départ, il y a eu des envahisseurs. Alors, au lieu d'enlever l'envahisseur, je l'ai coupé et j'en ai ramené encore plus. Alors, chaque année, l'envahisseur s'arrêtait. Et un autre envahisseur arrivait, etc. Et au fur et à mesure, il n'y a plus d'envahisseurs. Donc, comme tu as vu, il n'y a plus d'herbe, j'ai pas de désherbage à faire. Donc, l'idée, c'est d'enrichir cette couche qu'on a mise sous la terre il y a très longtemps. Et du coup, au lieu de retourner la terre, on redonne. C'est pour ça que j'appelle ça jardin jungle, parce que dans la jungle, la couche d'humus est très très épaisse. Donc, il faut 20 000 ans pour faire 20 cm d'humus. C'est l'ONF qui dit ça. Donc, j'ai gagné 5 000 ans.
Waouh! Mais c'est vrai qu'on parle de société hors sol. Si on observe la vie qu'on mène dans nos villes, on est là, déjà coupé du sol par la semelle de nos chaussures, coupé de la terre par la couche de béton, de macadam ou de toute surface qui a été créée en fait par l'humain. Mais il y a cette notion qui est juste essentielle aujourd'hui. Finalement, l'avenir de l'homme ou de l'humanité ou du vivant, c'est de recréer du sol. Parce que la vie vient du sol. Si on continue à polluer nos sols comme on le fait, je crois que là, on parle de problématiques, on parle de réchauffement climatique, mais je crois que le vrai problème, c'est les sols. L'appauvrissement des sols. Et sans sol fertile, rien ne pousse et donc on peut plus nourrir l'humanité.
Là, on pourrait parler des toilettes sèches, tout simplement. Donc, tout ce que je mange, si je le rends à l'eau, je appauvris parce que j'ai pas rendu à la terre. Donc, je prends et je rends. Et je rends plus riche. Et c'est vraiment ça, là. C'est tellement simple de rendre la richesse à la terre où qu'on habite. Moi, quand je lave mon linge, je lave avec la cendre et après, j'arrose mon jardin. Et je fais qu'il y a de la cendre un peu partout, donc de l'azote, etc. Du coup, il y a chaque geste de chaque instant. Donc, je lave avec l'eau de la pluie. Tous mes gestes, quand je me promène, je prends des graines et je les multiplie partout. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces plantes sauvages ici. J'ai fait revenir le fenouil, j'ai fait revenir des tas de sortes de plantes, simplement parce que je suis comme une fourmi qui se promène. Je plante tous mes pépins. Dans un pommier, tu as jusqu'à 9 pépins. Et tu as 9 pommiers, donc tu as des tonnes de pommes dans un trognon de pommes. Le mettre à la poubelle, c'est criminel pour les suivants. Alors que ça devient l'inverse de ça, c'est de se dire « Ouais, je plante trop pour moi et j'en mets partout. » Et puis c'est un bonheur à faire ça tous les jours. En fait, chaque seconde de ta vie, tu sais que tu bonifies. Donc je pense que l'humain va pas bien en ce moment parce que je crois qu'on est venu pour ça. Et je crois que c'est possible qu'on reprenne cette conscience qu'on est venu pour bonifier et on va réhabiter, peut-être que je m'appelle Eva Damp, pas pour rien, pour refaire ce jardin qui peut être partout un jardin de véritable abondance et pas si difficile à faire que ça parce que tu vois, moi je travaille pas dans mon jardin. Je me promène, je sème les graines, j'ai trop de côtes de bête, j'ai trop de céleri, mais je m'en occupe pas, je le bine pas, je le désherbe pas, voilà, c'est une autre façon, mais on n'imagine pas que c'est possible parce qu'on a perdu, on a aussi perdu la taille des plantes. T'as vu, les plantes ici sont très très hautes. Et dehors, là, à 3 mètres, tu vois, de l'autre côté, elles sont toutes petites. Alors on pense que c'est la taille normale. On pense que l'herbe, c'est normal. Voilà. L'herbe, c'est pas normal. C'est le premier, quand c'est perturbé, d'abord, ça fait de l'herbe. Et une fois qu'elle a fini de l'herbe, elle va faire des plantes et de plus en plus de graines et de plus en plus de richesses. Et voilà, c'est simple.
On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Evelyne, tu parlais avant de troupeaux et de moutons, de brebis égarées. Qu'est-ce qui fait que tu fasses partie de ces brebis égarées qui, à 25 ans, ont compris qu'il fallait remettre la conscience au cœur de la vie et tu t'es pas dirigée vers une vie plus classique, peut-être plus confortable, comme c'est le cas de la plupart des gens. Toi, tu dis, tu utilises la cendre pour laver le linge, tu aurais pu utiliser une machine à laver avec du bonus ou de la poudre.
Je l'ai fait il y a longtemps. Moi, je suis née à Paris, donc si j'ai fait tout ce que j'ai fait, fait en étant née à Paris, je pense que tout le monde peut le faire. Il y a eu un moment, je mentirais si je dis pas, c'était une démarche spirituelle, j'ai reconnecté avec mon âme, voilà, on peut dire comme ça. Mais je crois que, voilà, après c'est chacun va reconnecter avec une autre conscience, mais je crois que, voilà, j'aime pas donner de conseils, mais la seule chose qui manque à notre humanité, c'est de faire des temps de silence. Parce que dans le silence, on retrouve la connexion à son âme qui va pouvoir parler, alors que sinon, on est toujours avec sa pensée, là, qui coince et qui fait qu'on n'est plus qu'un ordinateur pour le corps. Mais voilà, nous, on appelle ça les grands studios. Il y a quelque chose qui organise avec nous. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais qu'avant, je parlais pas comme ça et j'en parlais pas parce que c'était, voilà. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font des démarches spirituelles. Et justement, il n'est pas temps de refaire des religions ou des... Voilà, j'ai ma démarche spirituelle, tu auras la tienne, chacun va avoir une nouvelle démarche. Voilà, donc j'ai connecté il y a 25 ans un petit peu plus large, je peux pas le dire autrement que ça.
Okay. Et donc c'est venu comme une évidence, hein, tu t'es relié à plus haut que toi ou à cette intuition, enfin ce qui était en toi, pour retrouver ce fameux spot dont tu parlais avant.
Spot de vie. Donc j'ai inventé ce mot spot de vie, comme j'ai inventé le jardin jungle, carter, bonifiant. Je crois qu'il faut inventer des mots pour des nouveaux concepts, et donc je le fais. Spot de vie, c'est, je pense que tout humain est né, surtout les bébés qui arrivent là, sont nés avec des passions, des sujets qui les intéressent plus. Et du coup, comme toi, par exemple, pour la photo, c'est ton spot de vie. Donc un spot de vie, c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse, et on doit attraper ce que les précédents ont fait avec le même spot de vie. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir tous les renseignements possibles. Et ensuite, le spot de vie, c'est quelque chose qu'on va créer avec. Par exemple, les carters, j'avais la sculpture, qui était une de mes passions. J'allais voir tous les musées de sculpture et l'architecture. Je les ai mis ensemble et ça donne les carters. Voilà, c'est deux spots de vie qui se sont reliés pour faire progresser les choses. Voilà, tous les enfants qui arrivent sont là pour faire une nouvelle société. Il faut les laisser trouver leur spot de vie. Et souvent, l'école empêche de trouver parce que c'est pas assez riche pour tous les sujets. Et en plus, des sujets qui n'existent pas encore, puisqu'on va créer quelque chose de totalement autre. Et ça va être passionnant de voir tous ces gens dans leur spot. Moi, tout le travail que je fais, c'est d'investir là, avec tous les jeunes qui arrivent, d'investir dans leur spot de vie.
Alors, j'aime bien parce qu'effectivement tu crées plein de concepts, plein de nouvelles définitions. On va en aborder d'autres, notamment sur l'écologie humaine et sur le lien, sur la relation qu'on peut avoir avec tous les gens qu'on rencontre et qu'on côtoie. Je voulais aussi te poser la question de cette fameuse légende, la légende du colibri où cet oiseau voit cette forêt en flammes et va donc à la rivière pour récupérer une goutte d'eau pour essayer d'éteindre cet incendie. Toi, qu'est-ce que tu vois dans les flammes? Qu'est-ce qui brûle autour de toi? Et quelle est la goutte d'eau que tu aimerais pouvoir déposer sur ces flammes?
Alors, des gouttes d'eau, j'en ai mis des milliards depuis 25 ans. Justement, chaque seconde de ma vie, c'est une goutte d'eau. J'utilise souvent c'est un proverbe écossais qui dit un peu la même chose, qui dit « Plein de petites gens, dans plein de petits lieux, faisant plein de petites actions, changeront la face du monde. » C'était un peu c'était mon soutien de me dire je suis en train de changer la face du monde parce que je fais plein de petites actions dans un petit lieu et je suis une petite Jean. Et j'ai toujours cru à ça profondément. Du coup, j'ai persévéré tout le temps de faire. Et maintenant, ça se voit un peu. Il émerge une image de ce que tu avais envie, quoi.
Et l'incendie, c'est quoi, les flammes?
Moi, je pense qu'il y a l'eau et le feu. Pour moi, l'eau, c'est le féminin, le feu, c'est le masculin. Et on est dans un patriarcat qui s'est basé sur le feu. Et il a eu peur de l'eau parce que le feu, il a peur d'être éteint. Et il y a une vieille prophétie dans l'Ancien Testament qui dit « Dans ces temps-là, l'eau n'éteindra plus le feu ». Voilà, il faut que les femmes, et la démarche ici, on est quand même beaucoup de femmes, et on n'éteint plus le feu des hommes, on essaye en tout cas de s'associer avec eux, mais en apportant notre eau. Et donc, tu vois, ces carters se font d'abord avec beaucoup d'eau et des plantes. Et donc, c'est plus le feu de cette grande énergie qui construit, etc. Et effectivement, le patriarcat a brûlé tout. Le feu, il doit réchauffer, il ne doit pas brûler. Mais s'il n'a pas l'eau pour le conseiller à côté, ça ne marche pas.
Donc, un subtil équilibre à trouver entre le yin et entre le yang.
Exactement, c'est ce qu'on essaye de trouver ici. Ce jardin, c'est un jardin plutôt créé par des femmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas le masculin du tout, hein. Mais on a recréé ce qu'on croit en tant que femme. Donc, le patriarcat, les hommes vont le guérir. Si toutes les femmes s'en vont, ils vont pouvoir le guérir tranquillement. Ça fait partie de mes conférences sur le masculin féminin. Mais donc, je te résume, c'est juste si les femmes retournent dans leur jardin, de leur côté. Elles vont recréer ce qu'elles croient sans essayer d'être égales, sans toutes ces choses terribles. Et on va être au rendez-vous maintenant avec des femmes entières et des hommes entiers. Et donc maintenant, on fait ce qu'on a à faire et on va s'associer, on va créer ensemble. Ça va. Tu as vu, il y a des jeunes hommes qui nous aident, etc. Au jardin, sur les carters. Donc c'est une association, mais dans un nouvel état d'être qui ne cherche pas l'égalité, qui cherche l'association des différents.
Dans le jardin jungle, tu me parlais, voilà, ça c'est l'ancien schéma, le nouveau monde, l'ancien monde. Quel est le monde de demain? Comment tu le vois? Comment tu le rêves?
Alors, pour moi, il n'y a pas d'ancien ni de nouveau monde vraiment. Il y a un monde en transition actuellement et il est temps de prendre le virage. Et je crois que c'est un virage en ce moment. Un vrai virage, c'est pas un nouveau monde, c'est un monde qui partait tout droit. Et on sait qu'il y a un mur devant quand même parce que c'était pas correct, ou une précipice, on sait pas trop. Et c'est le même monde qui va juste tourner. L'horizon n'est plus le même, mais c'est toujours les mêmes personnes. C'est une continuité, on va pas abandonner ce monde. Moi, j'aime cette société. Je trouve qu'on critique trop cette société. On critique tout ce qui se passe. Pour moi, cette société, c'est une vieille dame qui est un peu fatiguée et on va pas lui taper sur la tête tout le temps. On va prendre ce qu'elle a créé et on va créer du nouveau avec. Enfin, tout le processus d'ici, c'est de pas râler. On pratique l'éco-voisinage beaucoup. Les voisines sont en phase, etc. Et il y a quelque chose de très joli d'aimer le vieux fonctionnement et de lui proposer. Après, il accepte, il accepte pas, on s'en fiche, c'est juste. Et du coup, on ose faire plein de choses parce qu'on tient pas à ce qu'on nous croit.
Le lieu, comment ça s'appelle ici? Où est-ce qu'on est? Moi, j'ai Carter en tête, mais j'imagine que tu as un lieu, un nom de lieu.
C'est bien qu'il n'y ait pas de nom de lieu. Ici, c'est un lieu dit, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de mettre des cases ou des noms ou des. Voilà, on a très vite fait de vouloir mettre des étiquettes, etc. Voilà, là maintenant, c'est l'entreprise Carter. Donc, on a fait une entreprise pour pouvoir embaucher les gens, que chacun puisse vivre de ça. Mais oui, c'est le lieu des Carter. J'aime bien qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait aucune case, aucun nom. À part le mot Carter qui est l'habitat lui-même, mais voilà, c'est parce qu'il y en a d'autres qui font pas des Carter aux alentours et qui sont avec nous aussi. Voilà, il n'y a pas un mode de vie, c'est justement plein de gens associés, quoi.
Dans tous les modes de vie que je rencontre sur ce tour de France, beaucoup de projets collectifs n'aboutissent pas ou alors, après quelques années, implosent ou explosent ou se dissolvent. Je crois qu'il y a 90% des projets qui n'aboutissent pas ou qui se dissolvent avant la cinquième année. Pourquoi? On en a un peu parlé avant, hors micro, donc toute cette notion de le facteur humain, cette notion du vivre ensemble. Quelles seraient les clés, toi, que tu aurais envie de partager, force de ton expérience de vie en collectif aussi, parce que beaucoup de gens passent ici sur le terrain.
Alors, on aurait beaucoup à raconter de tout ce qui s'est passé en 25 ans. Il y a eu toutes sortes de personnes, toutes sortes de... Voilà, nous, on joue à être contents d'être pas d'accord. Voilà, ça, c'est la base de données. C'était qu'on a créé une école pendant des années ici. Et on a eu cette école avec les enfants à qui on apprenait à être contents d'être pas d'accord. Mais il fallait que les parents puissent apprendre aussi à être contents d'être pas d'accord. Et ça, c'est le gros challenge. Il y a une idée qui émerge quand deux personnes sont pas d'accord et contents. Il y a une troisième idée qui arrive. On y arrive de plus en plus et de mieux en mieux à être vraiment content d'être pas d'accord, quoi. Parce que c'est pas accepter d'être pas d'accord, c'est être content. Parce qu'on sait que la troisième idée qu'on pourrait pas avoir tout seul va émerger. Donc c'est vraiment content. C'est-à-dire la richesse d'être pas d'accord, c'est vraiment des vérités différentes qui s'associent. Ça, c'est vraiment, si ceux qui créent des écoliers pouvaient entendre ce que je dis là, c'est vraiment important. Toutes les vérités assemblées vont faire des nouvelles vérités au milieu de ces vérités, c'est-à-dire que ça va être très très riche. Mais si il y a un seul pas content d'être pas d'accord, il peut détruire beaucoup de choses. Et il y a toujours celui-là qui arrive dans les écolieux. Il faut savoir le gérer. Nous, on a plein de choses à dire sur ça.
J'imagine, parce que content d'être pas d'accord, d'abord, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Donc comment est-ce qu'on passe du statut de pas content à content d'être pas d'accord?
Si tu as compris qu'il va y avoir une richesse que tu ne trouveras pas tout seul, et qu'en la confrontant à ton ami qui a une autre idée, ça va faire une idée qui n'existe pas, sans ce content.
Mais si mon ami a tort?
Il peut pas avoir tort puisqu'il a une autre idée. Il a une autre vérité. Il a tort par rapport à ton regard. Tu vois, chacun a une fenêtre pour regarder l'image. Il y aura des divergences. Et c'est là que c'est intéressant.
Cette notion de faire fonctionner cette intelligence collective, hein, mettre en commun nos idées, arriver à prendre du recul sur le filtre qu'on peut avoir devant notre regard et puis prendre un petit peu de hauteur et voir comment est-ce qu'on peut être dans une forme de complémentarité et non pas dans une confrontation d'idées.
Je pense qu'il y a autant d'humains sur cette planète actuellement que de vérités. C'est-à-dire que chaque personne a une vérité à apporter. Et si on apprend à nos enfants qui arrivent là d'apporter leur vérité, sans l'imposer, parce qu'il y a beaucoup de petits dictateurs qui peuvent arriver aussi dans les écolieux, des gens qui prennent un peu le pouvoir, où il y a toutes sortes de vieilles façons de faire qui étaient très anciennes. Et là, il faut qu'on passe vraiment à apporter sa vérité, en sachant que de la mettre à côté de celle des autres, c'est là qu'il va se passer des choses, quoi. C'est la force de ça qui crée tout ça, parce que un seul ou 10 d'accord, ça le ferait pas. Ça serait moins riche.
Donc, content de pas être d'accord. Ça, c'est un chouette concept.
Voilà. La question, c'était quoi?
La question, c'était l'engouement qu'on observe autour de ce que tu proposes depuis des années. Donc là, tu es rentré dans quelque chose, une sorte d'alignement. Les choses se mettent en place toutes seules et tu es très sollicité, en tout cas beaucoup plus qu'il y a 20 ans.
Moi, je pense que quand une chose est juste, il n'y a rien qui l'en empêche, quoi. Et puis, il y a ce côté féminin où on disait qu'autrefois les femmes étaient exigeantes ou machiavéliques ou toutes ces choses, on disait qu'elles arrivaient toujours à leur but, et ben ça peut être une qualité. Voilà, moi je veux une planète et je veux qu'on habite la planète correctement. Alors j'irai toujours tout droit sans accepter la médiocrité des choses qui m'en empêchent. Si on est intègre avec ce qu'on est, les gens finissent par vous croire. C'est ça l'écologie relationnelle, c'est d'être avec son voisin, voilà, qui pratique complètement autrement son jardin et qui pourtant voilà, reste souriant avec vous et vous aussi. Et il y a beaucoup d'écolieux qui peuvent se faire du mal en étant contre ceux qui sont autour, par exemple. Ça, c'est très dangereux, ça marchera pas. Voilà, nous, on a vraiment un voisinage tout à fait en phase. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'éco-relation avec l'éco-voisinage. Ça, c'est essentiel.
Cette notion de rester en lien et de pas s'exclure, quoi. Continuer à préserver le lien avec l'extérieur.
C'est ça. Et puis d'aller avec toutes sortes de personnes. Moi, je peux aller avec n'importe quel style de personne, voilà, depuis le mouton noir hyper en colère après la société. J'ai souvent beaucoup parlé à ces moutons noirs que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'énergie de révolte, de tout ça. Mais je peux aussi aller parler à l'homme politique qui fait des choses différentes, voilà. Donc ce lieu ici, c'est à cette prétention, entre guillemets, de faire ce lieu de centre de recherche où tout ce monde-là va se réunir.
Donc les projets à venir, c'est ça, c'est vraiment développer ce centre de recherche, ouais, pour pouvoir inspirer le plus largement possible un maximum de monde autour de soi.
De mettre toutes sortes de personnes qui vont agir ensemble pour ce fameux gain de planète. C'est ma copine, je dors avec elle toutes les nuits.
C'est vrai que tu es directement même le sol dans une carter.
Si je vivais pas ça, j'aurais pas l'énergie d'oser faire tout ce que je fais. Et voilà, c'est beaucoup beaucoup d'énergie que de retrouver le contact avec la Terre. Même sur les écolieux, c'est quand même des maisons ou des yourtes où on a mis des planchers, etc. Je sais que ça, c'est... Voilà, il y en a très peu qui entendent ça. Mais le peu de gens qui dorment sur la terre directement comme moi sont des gens qui ont beaucoup d'énergie à opérer le changement.
Peut-être terminer par ça, effectivement, cette notion de connexion ou de reconnexion. Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'on met souvent en avant dans les peuples racines, les peuples premiers, hein, cette notion de lien, hein, de l'homme à l'environnement que nous, on a complètement perdu et que toi, tu retrouves en tout cas dans ta manière de vivre.
C'est clair. Les Indiens des Puyanawa qui sont venus ici, le couple des chefs de là-bas, sont venus ici et voilà. Ils ont dit, Evelyne, c'est une guerrière. C'est la fin de l'interview, j'ai envie de donner un gouvernail. Si tu as la paix, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si tu as la joie, vas-y. Et si tu as la joie, c'est parce que tu as l'énergie, et c'est la planète et l'énergie des plantes, de la terre qui nous la donne.
Et donc le gouvernail, c'est ça, c'est remettre la joie comme étoile à suivre, ou l'enthousiasme aussi, faire les choses avec enthousiasme.
C'est aller vers une nouvelle abondance. Et elle est là, cette abondance. Voilà, on peut avoir ici, j'ai trop chaud, j'ai trop d'eau, j'ai trop de plantes, j'ai trop de fruits souvent. On peut même pas manger tous les raisins, on peut pas manger, voilà. Et cesser d'avoir besoin de tous ces objets qui ne sont pas l'abondance. Et c'est ça, réduire ces objets, mais aller vers quelque chose d'enthousiasmant et de riche. Parce que plein de gens peuvent croire que c'est une vie qui va être pingre ou pauvre ou froide malade ou moins ci, moins ça, c'est plus d'autres choses.
Merci à toi, Evelyne. Dans cette émission de Carbone Zéro, vous avez entendu Evelyne Adam, la créatrice des Carter.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.